Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Comme il était déjà trop tard ce jour-là, le 1 des Shabbats, et les portes étant fermées, là où étaient les disciples, à cause de la crainte des Juifs, il vint, Jésus, et il se tint vers le milieu, et il leur dit, « Paix à vous !» Et ceci ayant dit, il leur montra les mains et son côté. Ils se réjouirent donc, les disciples, ayant vu le Seigneur. Il leur dit donc à nouveau, « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et ceci ayant dit, il insuffla et leur dit, « Recevez Esprit Saint. » Si à certains vous laissez les péchés, ils se trouvent laissés à eux. Si à certains vous les retenez, ils se trouvent retenus. Pour Thomas, un d'entre les douze, celui qui est surnommé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Il lui disait donc, les autres disciples, « Nous avons vu le Seigneur !» Or, il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la trace des clous. » Et ne jette pas mon doigt dans la trace des clous, et ne jette pas ma main dans son côté. Non, je ne croirai sûrement pas. Et après 8 jours, de nouveau, ils étaient dedans, ses disciples et Thomas avec eux. Il vient, Jésus, les portes fermées. Et il se tint vers le milieu et dit paix à vous. Ensuite, il dit à Thomas, mets-toi à porter ton doigt ici et vois mes mains, et mets-toi à porter ta main et jette-la dans mon côté. Et ne te mets pas à devenir incroyant, mais croyant. Il répondit Thomas et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il lui dit, Jésus, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne virent pas et qui crurent. Beaucoup donc aussi d'autres signes. D'une part, il fit Jésus en face de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceci d'autre part se trouve écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous avons souvent le mot « apparition » quand on parle de ce qu'on vient de lire, « apparition du ressuscité ». Ici, dans ce texte, il faut faire attention, il faut être attentif, parce que ce mot n'est pas employé. Pas ce mot. Alors, quel mot? Eh bien, 2 fois, il est écrit « Jésus vint ». Jésus vint. Autrement dit, la venue glorieuse de Jésus a commencé. On ne l'attend pas que dans la fin des temps. Elle a commencé. Elle se fait aujourd'hui. L'apôtre Jean à Patmos, il dit que c'était le jour seigneurial, si je traduis littéralement, qu'il a vu Jésus vivant, Le jour seigneurial, c'est aujourd'hui, le dimanche. Nous attendons une venue finale, mais n'oublions pas que Jésus est déjà venu et qu'il vient au jour seigneurial, le dimanche, et particulièrement dans la Sainte Cène. Nous avons dans cette église l'habitude de la célébrer chaque dimanche parce que Jésus vient, on lui demande de venir pour que cette communion à son corps et à son sang se réalise. Dans ce texte, nous avons trois indications sur la manière dont Jésus vient. Ces trois manières ne sont pas à considérer séparément parce qu'elles sont liées les unes aux autres. Mais pour la clarté de la prédication, je vais vous les exposer. Mais n'oublions pas que tout ça, c'est un en Jésus, quand il vient. La première manière, quand on nous dit que Jésus vient, c'est au verset 19 et au verset 26. On nous dit deux fois, il se tint vers le milieu, sans aucune précision. Alors, quel milieu? Le plus simple est de dire au milieu de la pièce où se trouvent les 12. Effectivement, Jésus vient au milieu de l'église. Sinon, notre réunion ce matin n'a aucun sens. Ce n'est pas le milieu. Ce n'est pas Mathias, ce n'est pas Denis, ce n'est pas Patrick, ce n'est pas Sophie. C'est pas Micha, c'est Jésus le milieu. Et dans l'Apocalypse aussi, il est au milieu de quoi? Dans le texte que nous avons écouté, il est au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Donc au milieu de l'église. Au milieu donc d'êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Des êtres humains que Jésus a choisis, que Jésus a extirpé la puissance de ce monde pour les intégrer à son royaume. J'étais frappé par les trois mots qu'utilise l'apôtre Jean dans Apocalypse. Moi qui ai part avec vous à l'épreuve, au royaume, et à la persévérance de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le royaume qu'il n'y a pas d'épreuve, ça fait partie. Mais nous faisons partie d'un royaume, du règne de Jésus-Christ. Il est au milieu de ces êtres humains qu'il a sorti la puissance de ce monde pour les intégrer à son royaume. Donc il est au milieu de la création. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, une partie de la création, on pourrait même dire le sommet de la création, eh bien, Jésus est au milieu de la création. Ça, c'est très important que le texte nous dise « il se tint vers le milieu ». Deux fois, « il se tint vers le milieu », à chaque fois, « il se tint vers le milieu ». Pour que nous n'imaginions pas Jésus comme un petit plus dans ma vie. Oh, les gens ont soif de spiritualité. Alors, on va prendre un petit peu Jésus. On va le prendre un petit peu pour pimenter notre vie, pour donner un peu plus de sens à notre vie. Non. Il ne donne pas un peu plus de sens. Il est le sens. Il est le milieu. Il est l'objectif. Le alpha et le oméga, ça veut dire il est à la source de la création, et il en est l'aboutissement. Il est donc au milieu, s'il en est à la source et à l'aboutissement, il en est au milieu. Il est le cœur même de la création, le milieu. Pareil pour notre vie. Il ne va pas être un petit copain qu'on invite en plus dans notre vie. Jésus est notre ami.
Oui,
il est notre ami, mais l'ami principal.
Oui.
Au milieu. Qui donne sens à toutes nos amitiés. Voilà donc pour la première manière dont Jésus vient. Il vient au milieu. Et puis, il y a une deuxième manière qui nous est indiquée. Il vient avec ses plaies bien visibles. Et il les montre. Il ne s'en cache pas. Il les a montrées à chaque fois, deux fois, donc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le ressuscité vient, c'est le crucifié qui vient. Il vient au milieu. Il a encore les plaies que les hommes lui ont fait à la croix. Il vient au milieu avec les signes de sa mort. Il les aura éternellement, ces signes. Et au lieu de nous effrayer, la vision de ces plaies nous donne la paix. Une paix que personne, même moi-même, je ne pourrais pas me l'enlever. Personne ne peut nous enlever la paix. Chaque fois aussi, Jésus rajoute, en montrant ses plaies, il dit paix à vous. Ça nous interroge, car supposons que j'ai blessé physiquement quelqu'un et que ça lui laisse des séquelles. Chaque fois que je verrai les plaies de cette personne que j'ai blessée physiquement, j'aurai honte. Ça me rappellera quelque chose de mal. Ou inversement, si quelqu'un m'a blessé physiquement, que je suis handicapé, si un jour je la vois, je voudrais au moins qu'elle exprime des regrets, non? Minimum. Mais ici, c'est pas ça. C'est l'inverse, c'est le contraire. Il n'y a aucune honte chez les disciples, puisqu'on nous dit qu'ils sont dans la joie. En voyant ça, en voyant le Seigneur, ils sont dans la joie. Alors ça nous fait donner du sens à cette parole d'Ésaïe, dans ses plaies, notre guérison. Les plaies qui ont entraîné la mort de Jésus nous montrent donc combien nous sommes aimés. L'amour est fort comme la mort, c'est écrit dans Cantique 8, verset 6. Ou bien, ton amour vaut mieux que la vie. Psaume 63, 4. Dans les blessures de Jésus, nous avons une paix, une guérison qui subsiste, même quand l'hostilité fait rage en nous ou autour de nous. Toute nouvelle blessure qu'on pourrait nous infliger dans ce monde inventif en matière de sadisme, de torture, de cruauté, trouvera sa guérison dans les plaies du ressuscité. Vous voyez donc que croire à la résurrection, ça ne consiste pas à dire « Bon, vendredi saint, on a parlé de la croix de Jésus, de sa souffrance. » Maintenant, avec Pâques, on a tourné la page. Non. C'est toujours le crucifié. C'est lui, le crucifié, qui vient vers nous, et plein de la vie, de la guérison, de la joie, de la paix, qu'il a acquise effectivement, définitivement, pour nous, à la croix. Ça, c'était la deuxième manière dont Jésus vient. Il y a une troisième manière qui nous est indiqué dans ce texte. Il vient en insufflant. J'ai fait le geste, mais ça n'a aucun rapport avec ce que Jésus fait, mais vous imaginez maintenant. Il vient en insufflant. C'est marqué comme ça, littéralement. en insufflant, en ajoutant ces mots, recevez Esprit Saint. C'est exprès que j'ai traduit donc littéralement, il insuffle. Ce qui nous fait donc penser, avec les paroles qu'il ajoute, qu'il a insufflé de l'Esprit Saint en nous. Le prophète Ézéchiel avait vu le peuple d'Israël sous forme d'ossements, desséchés, répartis, dispatchés à la surface de la terre, et il reçoit l'ordre de commander au Saint-Esprit, et il commande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit souffle des quatre vents, et il voit des ossements qui se remettent ensemble, et puis la chair et la peau et la vie qui entre en eux. Ça devient une armée. La Bible parle de plusieurs sortes de morts. La mort physique, ça c'est la plus simple à comprendre, parce que tout le monde la connaît. Et la mort aussi consistant à avoir perdu le contact avec Dieu. Les 12 reçoivent ce contact avec Dieu par Jésus qui souffle l'Esprit Saint en eux. Ils avaient déjà expérimenté l'Esprit Saint quand Jésus les a envoyés en mission pour guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Ils l'ont fait avec la puissance de l'Esprit Saint, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Mais maintenant, ils expérimentent l'Esprit Saint encore d'une autre façon. Du fait que Jésus insuffle. Et ce mot insufflé est utilisé tout au début de la Bible, dans Genèse 2, verset 7, pour la création de Adam. Le Seigneur Dieu insuffla dans ses narines l'haleine de vie. Il insuffla le Saint-Esprit. C'est la création nouvelle, au milieu de la création actuelle. Depuis que j'ai réalisé cela en méditant ce texte, je me suis dit, maintenant, le reste de ma vie, je vais corriger ce que je pense de Dieu créateur. Ce que je pense de Dieu créateur, c'est qu'au commencement, il a créé les cieux et la terre, tout ce qui remplit la terre. Après, il s'est reposé, il laisse les processus naturels suivre leur cours. Mais ça, c'est faux. Parce que Jésus crée aujourd'hui, dans l'histoire, dans le temps, il crée, il insuffle la nouvelle création par l'Esprit Saint en nous. Et l'apôtre Paul dit cette chose dans Romains 8, 19, que toute la création voudrait savoir, connaître ce qui s'est passé pour nous quand Jésus a insufflé l'Esprit Saint en nous, qui nous fait devenir fils de Dieu. Toute la création, toute la nature veut participer à cette nouvelle création. Dans le temps qui est une création de Dieu, c'est donc l'éternité qui est venue dans la personne de ressuscité. En même temps, Jésus, simultanément, on peut dire, oui, il leur donne la mission d'annoncer le pardon de Dieu à tous, sans limite. Ça veut donc dire que la venue de l'Esprit Saint est liée au pardon des péchés. Annoncer aux autres que Dieu leur pardonne en Jésus-Christ, c'est leur communiquer l'Esprit Saint. Les deux sont associés ici dans ce texte. Ça, c'est la paix. C'est un fruit de la croix. La paix de se savoir pardonner. C'est cette paix que nous devons annoncer. Et annoncer cette paix, ça veut dire un combat. Saint Thérèse d'Avila a cette phrase merveilleuse. Sainte paix qui nous permet de déclarer la guerre à tous les partisans de ce monde en restant nous-mêmes pacifiques. Annoncer le pardon des péchés, la disponibilité de l'Esprit Saint à tous sans exception, c'est une guerre une guerre contre nous-mêmes et contre ce monde qui ne connaît que la peur, la culpabilité pour dominer. Jésus ne domine pas par la peur ni par la culpabilité, mais il domine par le pardon et par la paix. C'est le règne de l'Esprit Saint et de son fruit pour lequel nous combattons. Je vous ai dit que la venue de Jésus, c'est vers le milieu, c'est avec les plaies de la crucifixion, et c'est une nouvelle création. Il y a un autre indice qui nous permet de parler de nouvelle création, c'est au début du texte. Le jour 1, c'est la traduction littérale, le jour 1 des Shabbats. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, nous avons un jour 1, au début encore de la Bible, dans le récit de la création. Qu'est-ce que Dieu a fait le jour 1? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, il me reste à vous parler d'une chose un peu bizarre dans le texte, c'est qu'on nous parle des 12. Vous avez bien entendu, 12. Regarde combien d'apôtres?
11.
Il y en a 11. Pourquoi on nous dit 12? Alors, on peut penser que le rédacteur se projette déjà au moment où on a choisi de compléter le collège des 12 avec Matthias, mais on peut aussi penser aux jumeaux, puisqu'on nous précise que Thomas a un surnom, Didyme, ce qui veut dire en grec jumeau. Qui est ce jumeau? Je ne vous dis pas. Mais pourquoi nous le précise? C'est peut-être qu'il compte pour deux. Que nous, on est ce jumeau. Quand nous écoutons, quand nous croyons, celui qui a vu, les 12 ont vu, et c'est eux qui donnent le fondement de notre foi, parce qu'ils ont vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est pas un blâme à Thomas. Il fallait qu'il voie pour être faire partie des fondations des remparts de la Jérusalem céleste. Dans Apocalypse 20, vous voyez que la Jérusalem céleste où nous allons habiter, elle a 12 fondations. Les remparts ont 12 fondations. Ce sont les 12 apôtres qui ont vu et qui ont écrit ce qu'ils ont vu. Pour que nous, maintenant, on croit, et alors on fait partie des 12. On peut chanter dans Arc-en-Ciel.